Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Mouamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition matinale du vendredi 8 novembre 2024. Voici le sommaire.
J'espère que nous pourrons, peu importe pour qui nous votons, nous considérer comme des concitoyens et pas comme des adversaires. Faire baisser la température.
Le président américain Joe Biden s'engage à assurer une transition pacifique et ordonnée avec Donald Trump, son prédécesseur et bientôt successeur à la Maison-Blanche. Au Mozambique, des policiers ont dispersé hier des milliers de manifestants descendus dans les rues de Maputo à l'appel du principal opposant Venancio Mondlane qui dénonce depuis l'étranger les résultats des élections. La Cour pénale internationale a rendu public un mandat d'arrêt contre un ancien chef de milice centrafricain pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en 2014. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Claire Morin-Gibourg et les sports présentés par Yacouba Ouidraogo. Mais pour commencer, voici le journal. Le président américain Joe Biden s'est engagé hier à assurer une transition pacifique et ordonnée avec Donald Trump, son prédécesseur et bientôt successeur à la Maison-Blanche. Les précisions avec Jacques Aristide.
J'espère que nous pourrons, peu importe pour qui nous votons, nous considérer comme des concitoyens et pas comme des adversaires. Faire baisser la température, a dit Joe Biden lors de ce premier discours depuis la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle. C'est un moment difficile, vous souffrez. N'oubliez pas tout ce que nous avons accompli. Cela a été une présidence historique. Nous avons perdu cette bataille, mais l'Amérique dont vous rêvez exige que vous vous releviez, a ajouté le président sortant qui achève 50 années de vie politique. Le démocrate Biden a invité le républicain Trump à la Maison-Blanche à une date non précisée pour préparer l'arrivée de la prochaine administration. Donald Trump attend avec impatience cette rencontre, selon son équipe. Kamala Harris s'est également engagée à l'aider pour le transfert du pouvoir. Le président élu, qui prêtera serment le 20 janvier, a trouvé à la vice-présidente Harris de la force, du professionnalisme et de la ténacité, toujours d'après son équipe. Donald Trump a 74 jours pour mettre en place son administration, dans laquelle des figures comme le milliardaire Elon Musk ou Robert F. Kennedy Jr., neveu du président assassiné, pourrait jouer des rôles importants.
Le président élu Donald Trump a annoncé jeudi qu'il ferait de Susie Wiles, architecte de sa campagne, sa chef de cabinet à la Maison-Blanche. Susie Wiles vient de m'aider à remporter l'une des plus grandes victoires politiques de l'histoire américaine, a salué le républicain dans un communiqué. Il a souligné que la sexagénaire serait la première femme à occuper ce prestigieux poste, un honneur, selon lui, bien mérité. Toujours ici aux États-Unis, un juge fédéral a révoqué jeudi une mesure visant à simplifier l'obtention d'un statut légal pour les conjoints des citoyens américains. Ce programme, nommé Keeping Families Together, garder les familles ensemble, est selon la décision du juge contraire aux lois américaines régissant l'immigration. Le juge fédéral texan J. Campbell Barker, nommé par Donald Trump au cours de son premier mandat, avait déjà suspendu cette mesure à deux reprises depuis le mois d'août, dans le cadre d'une procédure engagée par des procureurs généraux républicains de 16 États américains qui contestaient cette politique de l'administration Biden. La décision du juge peut faire l'objet d'un appel, mais l'élection de Donald Trump lors de la présidentielle de mardi rend peu probable l'aboutissement de la procédure. Des avions de combat F-15 sont arrivés hier jeudi au Moyen-Orient, a affirmé l'armée américaine. Ces appareils habituellement basés en Angleterre, dont le nombre n'a pas été précisé, sont arrivés dans la zone de responsabilité du CENTCOM, le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, selon l'armée. Le ministère américain de la Défense avait annoncé la semaine dernière qu'il enverrait au Moyen-Orient des bombardiers, des avions de combat, des appareils de ravitaillement et des navires de défense anti-aérienne. Si l'Iran, ses partenaires ou ses groupes affiliés profitent de ce mouvement pour prendre pour cible le personnel ou les intérêts américains dans la région, les États-Unis prendront toutes les mesures nécessaires pour se défendre, avait alors mis en garde le Pentagone.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À L'actualité africaine à présent, au Mozambique, des policiers appuyés par des militaires, des blindés et des chiens ont dispersé hier à l'aide de gaz lacrymogène des milliers de manifestants. Ceux-ci sont sortis dans les rues de Maputo à l'appel du principal opposant Venancio Mondlane qui dénonce depuis l'étranger les résultats des élections. Claire Morin-Gibourg.
Le bras de fer politique et judiciaire entre le candidat à la présidentielle et le parti au pouvoir s'est traduit toute la journée par des incendies de poubelles et des jets de pierres contre les forces de l'ordre dans plusieurs quartiers. En fin de journée, les rues de la capitale quadrillées par la police étaient vides. Depuis la proclamation des résultats du scrutin présidentiel du 9 octobre, attribuant une large victoire aux Frelimo au pouvoir, des manifestations ont eu lieu dans tout le pays. Crédité de 20% des voix par les résultats officiels, l'opposant revendique la victoire. Selon les Nations Unies, au moins 20 personnes ont été tuées. Ce ne sont pas des morts, ce sont des meurtres, a dénoncé Venancio Mondlane en accusant le Frelimo de se maintenir au pouvoir par la force. Cet ancien animateur de télévision, âgé de 50 ans, affirme avoir quitté le continent par crainte pour sa propre sécurité.
La Cour pénale internationale a rendu public hier un mandat d'arrêt contre l'ancien chef de milice centrafricain Edmond Bena. Ce mandat avait été délivré le 7 décembre 2018, accusant le mis en cause de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en 2014. Nathalie Barge.
Le mandat d'arrêt porte sur des crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis entre février et avril 2014 à Gwen, dans l'ouest de la République centrafricaine, par l'ancien chef de milice anti-Balaka, Edmond Beina, alors à la tête d'un groupe comptant entre 100 et 400 membres. Beina et son unité ont encerclé le village de Gwen et en ont pris le contrôle, tuant au moins 22 civils musulmans, dont des personnes âgées et des enfants, et en blessant plusieurs autres avec des machettes, décrit le mandat d'arrêt. Le lendemain, il aurait exécuté plusieurs hommes et garçons avec sa Kalachnikov. Ensuite, Edmond Beina a ordonné à ses hommes d'achever les survivants, poursuit le texte. Deux anciens chefs de guerre anti-Balaka, Patrice Edouard Ngaïsona et Alfred Yekatom, ainsi que l'ex-chef des Seleka, Mahamat Saïd Abdelkani, sont déjà jugés par la Cour. Selon l'ONU, les violences commises par ces deux milices en Centrafrique ont fait des milliers de morts et plus d'une centaine de milliers de déplacés.
Des frappes aériennes de l'armée tchadienne dans une contre-offensive contre Boko Haram ont fait beaucoup de morts et de blessés dans les rangs djihadistes, a affirmé hier jeudi le président Mahamat Idriss Déby Itno dans une interview accordée à la presse présidentielle. Nous avons opéré plusieurs frappes aériennes sur la position de l'ennemi qui ont provoqué beaucoup de morts et de blessés, a-t-il déclaré en tenue militaire depuis la province du lac Tchad. Le président Mahamat Déby avait personnellement lancé l'opération Haskanit en riposte à une attaque du groupe djihadiste Boko Haram contre l'armée tchadienne à Barkaram, près de la frontière nigériane. Au Sénégal, la 15e Biennale d'art africain contemporain de Dakar, événement majeur de la scène artistique, s'est ouverte jeudi en présence du président Bassirou Diomaye Faye. Initialement prévue du 16 mai au 16 juin, peu après l'élection présidentielle, la Biennale de Dakar a été reportée sur fond de rumeurs de manque de financement. Jean-Roger Bion.
Près de 400 000 visiteurs sont attendus du 7 novembre au 7 décembre pour découvrir le meilleur de l'art africain et de la diaspora. 58 artistes ont été sélectionnés pour l'exposition internationale et pendant un mois, Dakar et le Sénégal seront au cœur d'un rayonnement artistique intense, a déclaré le président Bassirou Diomaye Faye lors d'une cérémonie ponctuée de performances musicales et scéniques. Le Grand Prix de la Biennale a été remis par le président Faye à la graphiste martiniquaise Agnès Brézéfin, créatrice d'une police de caractère typographique dédié à l'alphabet créole et nommé le Kouli. Sous la direction artistique de Salimata Diop, critique d'art et commissaire d'exposition, la Biennale créée en 1992 et intitulée cette année The Wake, l'éveil, Halloween, le sillage en Wolof, met à l'honneur les États-Unis et le Cap Vert. L'artiste Wangeshi Mutu, originaire du Kenya et qui vit et travaille à Brooklyn aux États-Unis, est le grand témoin de cette édition.
Le Venezuela et la Russie ont signé jeudi des accords militaires et pétroliers qui, selon le président vénézuélien Nicolas Maduro, scellent la voie de la coopération entre les deux pays. Avec ces accords et ces contrats que nous avons signés, nous scellons et consolidons la voie de l'union et de la coopération entre la Russie et le Venezuela pour le reste des années à venir, d'ici 2030 et au-delà, s'est félicité M. Maduro lors d'une cérémonie au palais présidentiel de Caracas à l'issue de la réunion entre les délégués des deux pays proches alliés. Le vice-premier ministre russe Dmitri Tchernychenkov a auparavant souligné la volonté des deux pays de répondre pleinement aux besoins des forces armées vénézuéliennes. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Claire Morin-Gibourg.
En Côte d'Ivoire, le ministre du Commerce, Souleymane Diarra Souba, a lancé hier le programme Sécurité alimentaire de la fourche à la fourchette. Le programme SAFAF bénéficie d'un appui financier du Fonds européen de développement à hauteur de 6,5 milliards de francs CFA. Selon le ministre, ce programme va contribuer à assurer une croissance durable et inclusive des filières vivrières et améliorer le système de production alimentaire. Le Gabon a lancé son programme de digitalisation de l'administration. Ce projet vise à transformer le Gabon en un hub numérique en Afrique centrale et bénéficie d'un financement de 44 milliards de francs CFA de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Gabon Digital va développer les infrastructures numériques et renforcer la capacité d'innovation du pays. Ici aux États-Unis, la Banque centrale américaine a abaissé hier ses taux d'un quart de point comme attendu, après une période de pénurie de main-d'œuvre qui avait contribué à tirer les prix vers le haut. La Fed a salué les meilleures conditions du marché du travail et la baisse de l'inflation au lendemain de la réélection de Donald Trump.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Yacouba Ouédraogo. Salut Yacouba.
Bonjour Mohamedou, bonjour à tous.
La CAF augmente les primes des clubs féminins qualifiés pour la Ligue des Champions.
Oui, chacun des 8 clubs africains de foot féminin participant à la Ligue des Champions féminines va recevoir au moins 150 000 $ de primes. Le vainqueur recevra 600 000 $. L'équipe finaliste aura 400 000 $, 350 000 $ pour la troisième place et 300 000 $ pour la quatrième place. La Ligue des Champions féminines a été inaugurée en 2021. La CAF dit vouloir développer et promouvoir le football féminin en Afrique. D'après son président, Patrice Motsepe, l'objectif est d'investir dans des académies de jeunes pour les garçons et les filles et de continuer à augmenter les primes de toutes les compétitions de la CAF. La compétition débute ce samedi dans les villes d'El Jadida et de Casablanca au Maroc et prendra fin le 23 novembre. Elle mettra aux prises 8 clubs, l'AS FAR du Maroc, Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, Aigle de la Médina du Sénégal, Edo Queens du Nigeria, University of the Western Cape d'Afrique du Sud, FC Massar d'Égypte, CBE FC d'Éthiopie et le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo.
Crépin Diatta fait son retour dans la tanière des Lions de la Teranga.
L'entraîneur du Sénégal par intérim, Pape Thiaw, a convoqué 28 joueurs, dont Crépin Diatta, pour les deux dernières journées des éliminatoires de la CAN 2025. Les Lions de la Teranga affrontent le Burkina Faso le 14 novembre à Bamako au Mali, avant de recevoir le Burundi le 19 novembre à Diamyadio. Pas grand changement dans la liste de Pape Thiaw. Les cadors Sadio Mané, Idrissa Ganagé, Kalidou Koulibaly, Pape Matassa, entre autres, sont là. Pour rappel, le seul enjeu dans ce groupe L, c'est la première place que se disputent le Burkina Faso et le Sénégal, 10 points chacun, et déjà qualifié pour la CAN Maroc 2025.
Parlons à présent de ce doublé de Victor Osimhen qui permet à Galatasaray de battre Tottenham en Europa League.
Oui, l'attaquant nigérien a marqué 2 buts en 8 minutes pour aider Galatasaray à battre Tottenham 3-2 en Europa League. C'est la première défaite de Tottenham du Malien Yves Bissouma dans la compétition après 3 victoires. Galatasaray reste invaincu avec 3 victoires et 1 match nul. Dans les autres matchs, l'Eintracht Francfort a battu le Slavia Prague 1-0 grâce à un but de l'Égyptien Omar Marmouche en seconde période, tandis que la Roma de l'Ivoirien Dika a été tenue en échec 1-1 à l'Union Saint-Gilloise. L'Athletic Bilbao est venu à bout de Ludogorets 2-1 pour rester invaincu avec 3 matchs et 1 nul. Nice a fait match nul 2-2 avec Twente, les deux équipes ayant terminé le match réduite à 10.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Mouamadou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Après la victoire de Donald Trump à la présidentielle du 5 novembre 2024, de nombreux Américains attendent avec impatience de voir l'ex-président mettre en œuvre ses promesses faites pendant la campagne électorale. Tina Trin de la VOA revisite ses politiques passées et ses positions actuelles pour tenter d'offrir un aperçu de sa future présidence. Le récit est de Lionel Gaïma.
C'est officiel. Donald J. Trump, 78 ans, l'ancien président américain, occupera à nouveau la Maison-Blanche en tant que président des États-Unis. Comme Grover Cleveland à la fin des années 1800, Trump servira deux mandats non consécutifs en tant que 45e et 47e président des États-Unis. Pour comprendre comment pourrait se dérouler une seconde présidence Trump, il est utile de regarder son premier mandat et de ses récentes déclarations de campagne. L'immigration est un thème majeur pour Trump et ses politiques restrictives sont liées à ses vues nationalistes « America first ». En 2017, 7 jours après son investiture, Donald Trump a imposé une interdiction de visa de 90 jours, empêchant les citoyens de 7 pays à majorité musulmane d'entrer aux États-Unis.
J'établis de nouvelles mesures de contrôle pour maintenir les terroristes islamiques radicaux hors des États-Unis d'Amérique. Nous ne les voulons pas ici.
Durant la campagne cette année, M. Trump a parlé avec force de ce qu'il appelle une invasion des migrants, faisant de la sécurité des frontières un enjeu électoral majeur. Il a dit à ses partisans en Caroline du Nord ce qu'il va dire au nouveau président du Mexique.
Je vais l'informer dès le premier jour, ou plutôt que s'il n'arrête pas cette déferlante de criminels et de drogue qui entrent dans notre pays, je vais immédiatement imposer un tarif de 25% sur tout ce qu'ils envoient aux États-Unis d'Amérique.
Durant son premier mandat, M. Trump a imposé des taxes sur les importations chinoises et semble peu susceptible de changer de tactique cette fois-ci.
Ils nous ont fait vraiment mal, c'est tellement ridicule. Ils finissent par fermer, tout le monde perd son emploi, puis ils le fabriquent dans leur pays et nous le renvoient sans taxes, sans rien. Et nous perdons cela, nous perdons l'entreprise, nous perdons les emplois, nous perdons en quelque sorte tout et c'est tellement stupide.
Trump a retiré les États-Unis de l'accord de Paris de 2015, un traité pour lutter contre le changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre.
J'ai été élu pour représenter les citoyens de Pittsburgh, pas de Paris.
Trump dit que sa politique énergétique se concentrera sur l'augmentation de la production pétrolière nationale et un retour en arrière des réglementations environnementales.
Nous allons, dès le premier jour, dès la première heure, nous pouvons faire beaucoup de choses en premier. Mais d'abord, nous allons forer.
Dans son second mandat de président, M. Trump promet donc une approche plus protectionniste et isolationniste que les 4 dernières années du président Joe Biden.
Après l'échec de la vice-présidente Kamala Harris face à Donald Trump, le camp démocrate entame une douloureuse introspection sur les raisons de ce revers pour les démocrates, dit Lidico adjoint à New York, le professeur Mohamed Modj, enseignant d'histoire au Manhattanville University.
Il n'y a pas eu de mobilisation attendue et très forte et enthousiaste des jeunes et des Noirs, en particulier les hommes noirs. Et de l'autre côté, Trump a pu attirer des votes des hommes latinos d'une manière générale et dans beaucoup d'États. Je pense que c'est fondamentalement ces facteurs qui se sont conjugués pour expliquer mathématiquement donc la défaite de Mme Harris.
À votre avis, est-ce que le message des démocrates n'était pas assez percutant pour les électeurs et est-ce que le message des républicains aurait davantage résonné avec les électeurs américains?
Il y a une permanence du message républicain, l'économie va mal, l'inflation, etc. C'était mieux sous Trump. Qui sont des faits qui ont été répétés à longueur d'antenne, même par les journalistes dans l'analyse et dans la présentation des faits. On peut en discuter et on peut même en douter. Mais d'une manière générale, une fois que les gens intériorisent ce genre de phénomène, il est très difficile de changer. Donc, ce que Harris a essayé de faire, c'est de changer donc le thème, de foncer sur l'indépendance, la maîtrise de leur corps par les femmes, donc le thème de l'avortement, l'atteinte à la démocratie rampante, même disons fascisante selon sa caractérisation de M. Trump. Mais ces thèmes n'ont pas mordu, parce que, comme on dit d'habitude, les thèmes qui touchent un peu au niveau de vie, au standard de vie, à la dépense quotidienne, tendent à obscurcir et à dominer la façon de procéder et de raisonner de beaucoup d'électeurs, et en particulier ici, d'électeurs, disons, mâles, disons, des hommes, qui aussi, d'une certaine façon, certainement, ont été frileux de penser que peut-être une femme allait être président, et c'est une expérience que beaucoup ne veulent absolument pas accepter.
Au niveau législatif, donc au niveau du Congrès, les démocrates espéraient avoir un succès à ce niveau-là, mais comme on l'a vu, ils n'ont pas réussi à s'emparer du Sénat et ça s'annonce mal pour la Chambre des représentants. Comment expliquer la situation? Qu'est-ce qui n'a pas marché?
C'est toujours le même phénomène qui s'applique. D'habitude, les élections présidentielles, souvent lorsqu'on vote pour ce qu'on appelle le ticket, donc la tête du ticket Trump, souvent par atavisme et souvent aussi par choix, les gens cochent tout ce qui suit après. Donc sur la même ligne, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et donc il n'y a rien d'extraordinaire que justement les gens qui aient voté pour Trump aient voté donc pour la ligne qui suit ou pour tous les candidats qui suivent.
Professeur Mohamed Mbodj du Manhattanville University à New York. Les élections américaines ont été suivies avec beaucoup d'attention par les Tchadiens qui ont des avis partagés sur la victoire de Donald Trump comme 47e président des États-Unis face à la candidate démocrate Kamala Harris. André Kodmadinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point depuis N'Djamena.
Après 4 années de déboires judiciaires et après avoir échappé à 2 tentatives d'assassinat en pleine campagne, Donald Trump a signé son retour à la Maison-Blanche face à la candidate démocrate Kamala Harris.
Les États-Unis d'Amérique passent pour un modèle de démocratie au monde, mais il n'en est rien. Aussi, les États-Unis sont machistes, sexistes et racistes. Sinon, Kamala Harris serait présidente de la République.
Djekourniga Kautar Lazar, vice-président de l'Association tchadienne pour la promotion des défenses et des droits de l'homme.
Les Occidentaux sont prêts à donner des leçons d'égalité entre les hommes et la femme et d'égalité entre tous les peuples. Mais c'est de la poudre aux yeux. Donald Trump, c'est un monsieur très très belliqueux. Un président de la République qui insulte les gens comme un vulgaire monsieur. Il a été déjà président, mais il doit respecter ce titre. Alors ma crainte, est-ce que cet homme peut bien faire la paix à travers le monde? Parce que tout ce qui l'intéresse en ce moment, c'est l'argent.
En revanche, certains Tchadiens apprécient à sa juste valeur l'élection de Donald Trump comme 47e président des États-Unis.
Non, je suis content, Donald là. Il mérite quand il a été les tentatives d'assassinat là. C'est ce même jour là que j'ai cru que Donald va gagner.
Donald Trump, je félicite quand même parce que je n'ai pas d'information sur ça. J'ai écouté, mais pas beaucoup.
C'est une élection démocratique d'abord. Les Américains ont choisi l'homme qu'il faut le choisir. Moi, intérieurement, j'ai voté pour Donald Trump.
L'analyste politique Laldim Narcisse estime que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche sonne comme une revanche.
Personne n'a vu venir Donald Trump parce que tous les sondages donnaient la candidate des démocrates en tête. Mais en fin de compte, le peuple américain a décidé de renouveler sa confiance en cet ancien nouveau président. Mais moi, j'ai peur de ce qui se passe au Proche-Orient, puisqu'il est l'ami fidèle de Benjamin Netanyahou et ils sont tout le temps en contact. Alors moi, j'ai peur que les pays arabes aussi se radicalisent et qu'on parvienne à une éventuelle troisième guerre mondiale, parce que l'Iran aussi, c'est une puissance nucléaire.
Pour le constitutionnaliste professeur Ahmad Mohamed Hassan, Donald Trump ne sera pas tendre avec les dirigeants africains au sujet de la mauvaise gouvernance.
D'abord, le président est élu pour les Américains et par les Américains. Mais pour toute l'Afrique et pour le Tchad, le retour de cet homme qui n'a pas sa langue dans la poche, je ne pense pas que les relations vont rester statiques. Les Tchadiens, ils ont en face d'eux un président sincère, mais un président très rigoureux. Et ils traitent l'Afrique de pays de merde parce que les Africains ont une carence de gouvernance. Avec toutes les ressources dont dispose l'Afrique, les Africains sont encore dans la misère, encore dans les pandémies et la violence. Et s'il le dit crûment, sans aucune hypocrisie, eh bien, les choses vont se redéfinir par rapport à une question de rigueur. Et surtout que le Tchad est à l'épicentre de plusieurs conflits en Afrique et notamment en Afrique centrale.
André Kodoma Djingar, N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Environ 1 million d'électeurs mauriciens sont appelés aux urnes dimanche pour des élections nationales. Le premier ministre sortant, Pravind Jugnauth, est en quête d'un nouveau mandat de 5 ans. Sa coalition fait face à 2 alliances d'opposition, dont l'une menée par son opposant de longue date et ancien premier ministre, Navin Ramgoolam. Pour une analyse, Jacques Aristide a joint à Maurice Jean-Claude Lestrac, journaliste et ancien ministre des Affaires étrangères.
Se pose aux Mauriciens, c'est la question du choix de société. Nous avons un gouvernement sortant qui a été au pouvoir pendant 10 ans, qui a fait un certain nombre de choses, qui a un bilan, notamment sur le plan social, mais qui a été très critiqué sur le plan de la bonne gouvernance. Il y a eu des critiques sur la corruption, sur la politisation des institutions, sur le dépérissement même de ces institutions. Le dernier scandale en date, c'est l'histoire des écoutes téléphoniques. On écoute tout le monde, on écoute les journalistes, les opposants, les avocats, les juges. Et donc, au fait, l'élection se déroule sur la question de savoir si l'électeur est prêt à offrir un troisième mandat, en l'occurrence, à ce gouvernement.
Maurice est vu comme l'une des démocraties les plus stables d'Afrique, mais cette fin de campagne est marquée, vous le disiez, par un scandale d'écoute téléphonique et du blocage annoncé puis annulé des réseaux sociaux. Des observateurs y voient des signes d'érosion démocratique. Partagez-vous cet avis brièvement?
Absolument. Vous dites Maurice est vu. Au fait, pour être juste, il faudrait dire Maurice était vu. Parce que sur tous les indices internationaux ces derniers temps, on a vu une régression du rang de Maurice en termes de démocratie, hein, en termes de liberté de la presse, en termes de liberté d'expression de manière générale, en termes de politisation des institutions. Et donc on a régressé. Est-ce qu'il y aura un sursaut dans ces élections, c'est tout l'enjeu.
En octobre dernier, Maurice a conclu un accord qualifié d'historique avec le Royaume-Uni sur l'archipel des Chagos. La date de ces législatives a justement été annoncée au lendemain de cet accord. Le gouvernement sortant de Pravind Jugnauth tente-t-il de tirer profit de ce développement majeur ou ce scrutin s'annonce-t-il très serré comme le disent certains analystes?
C'est extrêmement exagéré de dire que c'est un accord historique. Ce qui était présenté comme une victoire historique est en train de totalement contre-productif pour ce gouvernement. Parce que dans la pratique, il n'y aura pas de Chagossien sur Diego Garcia. Au fait, bon, c'est un mirage. Hein. En revanche, Maurice a obtenu la rétrocession des autres îles faisant partie de l'archipel des Chagos. Cette question est à nouveau sur le tapis et l'arrivée de Trump relance au fait le débat, la discussion. Il y a des Britanniques qui ont déjà pris contact avec l'équipe de Trump qui essaye de remettre en question l'accord.
Jean-Claude Lestrac, ancien parlementaire mauricien et ex-secrétaire général de la Commission de l'Océan Indien. Et c'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouhamadou Oumfa, ainsi va Le Monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, sans oublier nos plateformes digitales, Facebook, YouTube et X. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique.